commencer tout doucement. Je vais dire quelques mots de présentation et peut-être que ça fera arriver ceux qui sont en haut et puis peut-être les retardataires également. Hélène Stevens a déjà expliqué très brillamment tout à l'heure les raisons qui nous poussaient à avoir choisi ce thème Révolution pour l'édition du Festival Raison d'agir cette année. Donc je ne vais pas y revenir dans les détails. Beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui tel qu'il est nous poussent à reprendre cette réflexion sur ces révolutions et peut-être davantage encore sur les aspirations d'aujourd'hui à ce que les choses changent, mais en y apportant le regard à la fois des sciences sociales et des œuvres sensibles, des œuvres cinématographiques notamment. En tout cas, l'origine de cette réflexion, c'était d'abord l'année, ce 2018, et ben c'est 50 ans après 68, donc c'est, voilà, pour ne rien vous cacher, mais vous l'aviez deviné, c'est un peu ça qui nous a donné l'idée, mais nous craignons, ce faisant, de tomber dans un flot de commémorations plus ou moins bien intentionnées, plus ou moins bien documentées, rabâchant un peu les choses. Bon, en fait, ce n'est pas totalement le cas. On a parlé d'une commémoration officielle, elle n'a pas eu lieu. On a entendu, la radio habituelle, des témoignages qui finalement étaient plutôt intéressants. Mais on peut toujours craindre cela, de passer trois jours à ressasser le pourquoi, le comment, les échecs, etc. Donc on voulait échapper un peu à cela. Et la première manière d'y échapper, c'était de regarder les autres expériences historiques et de les comparer. 1917, ça s'imposait, puisque on est pratiquement aussi à l'anniversaire, c'était à l'automne dernier, des 100 ans de la Révolution d'octobre 1917. Mais du même coup, pourquoi pas regarder aussi 1848, 1789, 1793, 1870, 1871, 1936, etc. Même si tous ces grands moments de l'histoire française et internationale ne sont pas toutes des révolutions au sens achevé du terme, mais en tout cas sont tous des grands moments où les aspirations à un monde nouveau se sont exprimées massivement, et où l'imagination politique, en quelque sorte, des constructions politiques nouvelles, en tous les cas, se sont stabilisées et ont marqué l'histoire, au-delà de ce qui s'est passé à cette période. Donc cette comparaison, déjà, nous semblait intéressante pour renouveler un peu l'exercice. Et puis surtout, nous avons voulu essayer de nous placer au niveau des acteurs eux-mêmes, non pas dans un élan subjectiviste, comme on dit en sciences sociales, juste pour voir les individus dans l'action. Non, c'est pas du tout. Au contraire, l'intérêt précisément d'une approche des processus révolutionnaires, c'est de reconstruire tout ce qui se passe dans l'ensemble de la société. Mais plutôt de bien voir les passions, de voir le pourquoi les gens, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens rentrent dans la possibilité, l'idée que les choses sont possibles, dans des pratiques nouvelles, dans des relations nouvelles avec les autres, avec les institutions. Et donc cet élan-là, quand bien même serait-il porteur de désillusions possibles, nous paraissait intéressant à reconstituer, et c'est là-dessus surtout que nous avons voulu mettre le focus contre les approches trop scolarisées au mauvais sens du terme, parce qu'il y a évidemment nécessité de scolariser la connaissance, et ça ne fait pas de doute, ou trop folklorisées, disons, ou trop stigmatisées, puisque ce soit 68 ou 1917, en particulier, 68 est sans cesse ramené soit à une pure révolution des mœurs, soit à des mythes de la société d'hier sans lendemain, voire parfois porter la responsabilité du libéralisme d'aujourd'hui, enfin toute chose qui dépouille 68 de sa réalité comme événement historique, et 1917, donc je ne vous fais pas de schéma sur tout ce qui a pu être dit sur la Révolution d'octobre. Cet après-midi, on a bien vu ça déjà dans les premiers courts-métrages, et puis dans la manière dont les dessinateurs de Fleu Bleu avaient rendu compte, et s'étaient forcés à leur manière de rendre compte de ces passions politiques qui émergeaient dans la population. C'était Alors avec les moyens du bord pour certains films, etc. Mais du coup, on voyait que c'était fort pour rendre compte de cette situation particulière. Voilà, c'est de tout ça dont on voudrait parler ce soir à travers l'exemple de la Révolution française, puisque à tout seigneur, tout honneur, en quelque sorte, il faut bien en France commencer par la Révolution française si on veut parler de révolution. Et une des mieux placées pour le faire, c'est Anne Jollet, donc que je présente en deux mots, maîtresse de conférence en histoire moderne à l'Université de Poitiers, qui est spécialiste de la Révolution française, et qui a notamment publié plusieurs ouvrages seule ou en tant que directrice ou co-directrice d'ouvrages, « Terre et société en révolution », la prise de parole politique, « Révolte et révolution »,« Province Paris », un bouquin sur la circulation de l'information, « Guerre et paix, nation et mondialisation ». Donc voilà toute une série d'ouvrages que j'imagine vous pourrez retrouver ici ou là, en librairie ou en bibliothèque. Et puis peut-être surtout, rédactrice en chef ou coordinatrice, apparemment, dit-elle dernièrement, des cahiers d'histoire, revue d'histoire critique, donc une œuvre collective, à la fois œuvre historiographique et intellectuelle, parce que revue ne cachant pas son point de vue, hein, faisant œuvre à la fois de développement des connaissances sur l'histoire et en même temps d'une histoire qui s'efforce de dévoiler les dominations sociales dans toutes leurs dimensions, contre une histoire en miettes, hein, j'évoquais tout à l'heure la nécessité d'avoir une vision globale. La Révolution nous porte à ça, à saisir la correspondance entre ce qui se passe dans la sphère économique, culturelle, symbolique, politique, et c'est bien le projet de la revue, si j'ai bien lu son intention. Un des projets en tout cas, et retravailler d'une manière nouvelle les rapports entre tout ce qui est de l'ordre des représentations, du symbolique, du politique et du matériel, de l'économique, etc. Ce qui, au fond, est une affaire longue qui concerne l'histoire en France depuis longtemps, depuis l'histoire inspirée de Marx, mais aussi l'histoire des annales, etc. Mais qui reste un projet très actuel. Et dans le cadre de la Révolution française, eh bien, comme je l'évoquais à l'instant, ce qu'il s'agit de saisir, c'est des rapports sociaux en pleine effervescence, des rapports entre la sphère symbolique et la sphère matérielle en pleine transformation. Alors après coup, on a tendance à identifier ça à des courants bien définis, à des événements très marqués, à des personnages très singuliers, mais évidemment, si on se place au niveau des acteurs sur le moment, les choses ne sont pas dites, les événements ne sont pas fixés, les courants ne sont pas fixés, et c'est ça qui est important de reconstruire. Sur un point essentiel notamment, et je finirai là-dessus, la question essentielle dans le processus révolutionnaire, et notamment, alors on l'a vu aussi dans les petits films de cet après-midi, mais si on prend l'exemple de la Révolution française, le cas des sans-culottes, par exemple, est tout à fait intéressant pour poser la question du politique lui-même. Comment les gens s'emparent du politique, ne font plus confiance à des personnels politiques qui pourraient les représenter. Et en même temps, un des gestes politiques fondamentaux en période révolutionnaire, c'est d'en faire appel au suffrage universel. Et donc, il y a aussi cette tension entre la manière dont on s'empare soi-même du politique et dont on construit une organisation qui va nous permettre de porter des idées politiques. Cette question-là aussi est évidemment une question fondamentale qui a traversé tous les processus révolutionnaires. On a vu cet après-midi que, par exemple, la Commune de Paris organise des élections municipales. D'où sort la Commune de Paris en tant que conseil municipal, en quelque sorte, de la ville de Paris. Et en même temps, tout le processus de la Commune, c'est quand même de faire en sorte que les citoyens en armes et organisés contrôlent le processus révolutionnaire. Donc cette tension-là, elle est évidemment extrêmement présente, mais du coup, la question, c'est comment ça se passe, donc ? Comment les gens vont se poser eux-mêmes les questions ? Comment ils s'organisent ? Comment ils posent les questions sous cet angle du rapport aux politiques ? Voilà. Donc, c'est toutes ces questions, sur ces questions-là un peu, mais tu peux choisir dedans, qui nous semblait vraiment intéressant, ce qui sont très actuelles au fond, mais qui supposent une recontextualisation impérative dans le contexte de 1789. Et c'est surtout ça qu'on avait envie d'entendre un peu, Anne-Jolie.
Merci. Je ne parlerai pas de tout ça. Bon, j'ai donné un titre. Comme souvent, on aime bien donner des titres qui sont un peu ronflants. Un copain m'a dit, on dirait un titre de journal, enfin d'article de journal. Donc, colère et construction politique. Je ne sais pas si ça vous a fait rêver. En y réfléchissant, je me suis dit que justement, c'était peut-être qu'à moitié historien. Parce que notamment, la notion de construction politique échappe à l'univers mental des hommes de la Révolution, je crois qu'on peut le dire, même si mon idée, c'était de montrer que, à travers certains processus, certains événements, on pouvait peut-être voir pointer quelque chose de ce type. Alors, colère, c'est plus banal. C'est assez à la mode en ce moment en histoire d'aborder donc par les émotions. Vous avez vu que Sophie Vanisch sera bientôt, ou devait être il y a quelques jours ici, et elle fait partie de ces historiens et historiennes qui ont remis en avant cette question des mobilisations émotionnelles dans les processus politiques que pendant longtemps on avait disjoints. Donc parler de colère, ça peut induire des rapprochements avec ces courants historiographiques. Et le rapprochement est d'autant plus fort et non déguisé que j'ai choisi de placer au centre de mon exposé, mais finalement j'ai peut-être un tout petit peu décentré, un événement que d'autres ont aussi considéré dans les dernières années comme un événement au sens où ça transforme le devenir des sociétés. Donc autour de cette question de la disparition du roi, un beau matin, les gens se réveillent à Paris, et notamment les députés, et on leur fait savoir que le roi n'est plus là. Et c'est quand même une très grosse surprise. Et cet événement, donc je voulais revenir dessus pour mesurer justement ce qu'il suscite comme colère et peut-être ce qu'il suscite dans le temps court et le temps, on va dire, moyen de la Révolution française comme transformation de l'approche du politique, notamment par des éléments, alors tu as parlé des sans-culottes, actifs du peuple, en particulier à Paris, mais aussi dans beaucoup de villes de la France de l'époque. Alors, pour m'amuser un peu, à propos de colère, nous on procède souvent comme ça en histoire, on va voir dans les dictionnaires anciens, ça nous plaît bien, et puis on voit le sens d'un mot, et puis ensuite on prend un dictionnaire 20 ans plus tard, puis on voit les évolutions du sens. Donc, de façon très banale, les dictionnaires du XVIIIe siècle, vous pourrez faire les mêmes recherches que moi, hein, tout ça c'est en ligne, ne donnent pas un sens très fortement politique au terme de colère, hein, qui est d'ailleurs souvent un sentiment noble, hein, c'est une noble colère, c'est plutôt une bonne chose d'être capable de colère, ça renvoie aussi dans beaucoup de textes à la colère divine, et d'ailleurs dans le corpus révolutionnaire on trouve aussi cette dimension. Et donc après, je suis allé voir, donc je ne vous donne pas le détail de mes références, je suis allé voir dans le corpus des textes des assemblées révolutionnaires, donc en l'occurrence constituantes, législatives et conventions, donc je me suis arrêté en 94, enfin 95, mais en fait je me suis arrêté un peu avant, voir s'il y avait une resémantisation, un changement justement de sens dans le moment révolutionnaire. Et finalement j'étais assez contente parce que ce que j'ai vu m'a un peu justifiée, je me suis dit, parce que le mot colère, on s'aperçoit qu'il, donc dans ce corpus, hein, c'est les archives parlementaires, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Là, c'est pareil, c'est en ligne, donc vous pouvez vous amuser, y passer toutes vos soirées. C'est tout à fait passionnant, donc il y en a pour différentes périodes, et notamment il y a des volumes qui concernent la Révolution française. C'est aussi en volume papier. C'est malheureusement une des grandes entreprises savantes interrompues par le manque d'argent du CNRS, mais je ferme la parenthèse. Vous pouvez faire des appels de mots, et à Colère, on voit que le nombre d'occurrences monte au cours des années. Alors j'avais même relevé ça, qu'on a 33 occurrences. Alors c'est à la louche, hein, parce que parfois il y a des fautes d'orthographe, donc il y a des mots qui n'apparaissent pas. 33 occurrences en 90, 40 en 91, 63 en 92, 97 en 93. Bon, puis je vais m'arrêter là. On voit qu'il y a véritablement un usage du mot qui rentre de plus en plus dans le débat politique. Alors, les archives parlementaires, c'est les débats de l'Assemblée, hein, donc c'est un spectre spécifique. Si on suit ça un peu de près, on voit aussi que la signification est de plus en plus associée à des mouvements collectifs et notamment aux mobilisations populaires. Alors, je vous le donne comme une introduction. On pourrait faire des mémoires de master à nos étudiants sur ces recherches. Évidemment, y passer beaucoup plus de temps. Ça m'a conforté dans mon idée de départ que la question de la colère est effectivement quelque chose d'important. On le trouve aussi dans la presse révolutionnaire et les journaux qui sont les plus radicaux, les plus critiques par rapport et à l'ancien régime et au pouvoir institué de la Révolution, valorisent beaucoup la colère du peuple comme un élément de la dynamique révolutionnaire et comme une force salvatrice. Alors, je fais allusion, par exemple, au journal de Marat. Je ne sais pas si certains connaissent ce personnage et notamment son journal L'Ami du Peuple, ou dans un autre registre, Le Père Duchesne de Hébert. Le Père Duchesne, je vous conseille de l'ouvrir, c'est pas forcément très facile à lire. Bon, il dit beaucoup de gros mots, et il dit des gros mots pour exprimer justement sa colère face à des situations qu'il juge intolérables. Alors, sur cette Révolution française, en introduction, je voulais quand même dire peut-être quelques mots plus globaux avant de passer à mon micro-examen. Peut-être d'emblée, puisque votre sujet est très général, rappeler que la très grande portée des événements de cette Révolution... d'une part, à l'époque, la France est une très grande puissance, d'où un effet de choc à la fois au positif comme au négatif pour l'ensemble des peuples contemporains. Cette situation de, on va dire, qui est aussi une de domination économique, philosophique, etc., explique son rayonnement. Une autre dimension, c'est évidemment son succès, c'est-à-dire que c'est une révolution qui dure, et c'est une révolution qui dure suffisamment pour transformer d'une façon irréversible l'ordre social, puisque de fait, il n'y aura jamais de retour, quoi qu'en aient dit les royalistes en parlant de restauration. Il n'y a jamais eu de restauration de l'ancien régime tel qu'il avait existé. Donc c'est bien une révolution victorieuse, et nous le savons encore plus que les hommes du 19e siècle aujourd'hui, avec l'installation d'une société de type tout à fait nouveau, basée sur cette philosophie des droits de l'homme, de l'égalité naturelle, de la liberté naturelle, qui n'est pas neuve à la fin du 18e siècle, mais qui prend... pour la première fois, une inscription politique, donc dans la réalité sociale, à travers ces mouvements révolutionnaires. Alors, il y a eu auparavant une révolution de même type, hein, de ré- type libéral des droits de l'homme, du contrat social dans les colonies d'Amérique. Mais l'impact n'est pas du tout le même parce que ce sont quand même des colonies et ce sont des populations très, très réduites. Et l'idée que des populations en petit nombre peuvent connaître des changements sociaux est quelque chose qui est plus facile à comprendre et qui n'a pas le même impact qu'une transformation radicale dans une très grande nation. Pour finir sur l'intérêt qui me semble pour nous particulièrement intéressant de cette révolution, c'est qu'elle pose au cours de son déroulement progressivement des questions nouvelles, c'est-à-dire que l'ancien régime, qui est une société tout à fait autre, hein, basée sur le privilège, est mise à bas, et que dans la société nouvelle qui s'instaure, apparaissent de nouveaux affrontements qui vont se développer pendant tout le 19e siècle autour, on peut dire, d'une opposition entre une bourgeoisie, donc satisfaite de ce changement d'ordre, et un peuple qui conteste que la révolution soit terminée et qui épisodiquement cherche à réouvrir la révolution, à amener de nouvelles transformations. Alors c'est ce qui fait aussi la richesse de cette révolution, c'est que c'est une révolution avec, on va dire, deux combats, hein, un combat contre l'ancien régime et contre les royalistes, contre la monarchie, et un combat entre les patriotes, donc ceux qui se nomment eux-mêmes patriotes, qui sont de plus en plus en conflit les uns avec les autres sur les formes à donner à cette nouvelle société. Donc c'est, il me semble, des aspects qui font que cette révolution, elle a parlé pendant très longtemps aux hommes et femmes, enfin, c'est-à-dire aux êtres humains dans les luttes, très au-delà de la disparition sans rémission, quoi qu'on ait voulu, parce qu'ils ont quand même beaucoup lutté, peut-être encore certains aujourd'hui, on a des étudiants qui se prétendent royalistes, donc il y a quand même peut-être encore des gens qui pensent que des restaurations sont possibles, mais massivement on peut dire que c'est un combat qui a été assez rapidement résolu. Alors sur cette introduction, je voulais finir en insistant sur l'importance de ce processus de lutte ouverte qui relance constamment la révolution et qui se produit dès 1789. C'est-à-dire que, contrairement, c'est peut-être, je ne sais pas, à des choses comme ça que tu pensais dans ton introduction, notamment la lecture qui a été faite autour du bicentenaire de la Révolution française qui n'a fêté que 1789, hein, 1789 n'est pas une année de paix sociale, n'est pas une année... c'est dire la même chose, d'irénisme, et les contradictions entre notamment les principes affirmés dans la Déclaration des droits d'août 89 et la mise en place de la nouvelle société apparaissent immédiatement et donnent lieu à des conflits sociaux très vifs et très vivement réprimés, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes, dès l'automne 89. Hein, l'automne 89, je le rappelle parce que je vais en parler ensuite dans mon exposé, c'est notamment en octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ça, comme diraient mes étudiants, vous n'y étiez pas et moi non plus, mais on ne sait plus quelle est la culture commune. Alors, sans doute parmi vous, il y a des gens qui savent beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je m'excuse si je dis des évidences. Octobre, c'est une période, c'est un moment de crise très fort, notamment parce que le roi, et là aussi, ça court pendant toute la Révolution, refuse de signer les décrets de l'Assemblée, y compris sur la Déclaration des droits, et donc ne leur donne pas force de loi. Ça va être une stratégie de Louis XVI pendant tout le temps où il lui reste du pouvoir, et ça, il va pas changer, hein, mais donc c'est dès le début, hein, du processus révolutionnaire qu'il y a ce conflit. Et ce conflit suscite un très grand mécontentement, pas seulement des membres de l'Assemblée ou des bourgeoisies libérales, mais aussi du peuple, d'autant plus que ça se croise avec des difficultés matérielles et notamment des problèmes d'approvisionnement, ce qui donne lieu, donc j'en étais là, au retour du roi, mais aussi de l'Assemblée dans Paris, bon, ce qui est un événement majeur, puisque désormais le pouvoir politique, après plus d'un siècle, va se trouver dans cette énorme ville, enfin ce qui apparaît à l'époque comme une énorme ville, bon, plus de 700 000 habitants, considérée comme la plus grande ville de l'Europe de l'époque, et une ville qui est réputée pour avoir un peuple particulièrement, je ne sais pas si on va dire insoumis, en tout cas qui occupe beaucoup l'espace public et qui a de très mauvaises mœurs, etc. Ce retour dans Paris, c'est quelque chose de tout à fait décisif, et comme vous le savez, c'est décisif à long terme, puisque à chaque fois qu'un pouvoir va sortir de Paris, ça va apparaître pour le coup comme quelque chose de contre-révolutionnaire, en tout cas d'opposé au peuple, exprimer une méfiance vis-à-vis du peuple, et le peuple de Paris le prendra toujours de cette façon, et en tout cas ce retour dans Paris lui apparaît comme particulièrement légitime, et du coup va lui donner un pouvoir politique, qui va être contesté par certains, particulièrement fort. Et l'autre aspect de cette situation d'octobre, c'est des pillages de boulangeries. Il y a aussi des pillages à la même époque à Poitiers, de marchands blattiers, de marchands de farine. Donc ce n'est pas un phénomène seulement parisien, mais vous vous souvenez peut-être qu'à Paris, ça débouche notamment sur la mise à mort d'un boulanger, dont certains ont fait un héros du doux commerce, mais qui est donc qui apparaît comme une victime de cette colère du peuple. Et à la suite de ces manifestations, l'Assemblée nationale, non sans certaines appréhensions, va voter un texte qui est un texte de loi martiale, lequel va être en application jusqu'à la Convention, et qui est un texte qui est très répressif. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un texte qui, notamment, désigne ceux qui seront réputés être les animateurs de ces mouvements, en particulier s'il y a des armes dans les attroupements, comme des criminels condamnés à mort. Donc c'est vraiment une répression très sévère qui est prévue, avec tout un processus de sommation, etc. Alors ça indique d'emblée, je vais finir là-dessus, que cette intervention du peuple dans la révolution, c'est quelque chose qui est permanent, et donc je voulais d'emblée qu'on sorte de l'idée d'une opposition entre une révolution calme et se passant dans les cercles de l'Assemblée et des moments d'intrusion populaire rendant la révolution violente. La révolution, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire dans le texte d'introduction, en citant Mao, effectivement, elle est violente de bout en bout, elle n'est pas que violente, mais il y a constamment des chocs entre des contestataires des pouvoirs établis et des pouvoirs qui entendent ne plus être mis en cause. Mais vous savez que la Déclaration des droits de l'homme contient le droit à l'insurrection comme un des droits liés à la liberté de l'homme, et que donc cette contradiction, elle rejoue constamment entre ce droit proclamé et la possibilité réellement de se soulever, ou la légitimité d'un soulèvement contre le pouvoir. Alors, pour parler rapidement de ce printemps 91, donc, que j'avais proposé comme une espèce d'objet d'étude spécifique, on pourrait en choisir d'autres, je vais vous dire d'abord quelques mots qui m'apparaissent particulièrement intéressants sur le contexte. Bon, c'est une déformation d'historien. Alors 91, qu'est-ce que ça vous dit, le printemps 91? Peut-être pas grand-chose, 1791. Ça fait que quand même la révolution elle commence à durer, hein, ça fait donc 2 ans à peu près, un peu moins, que ces mêmes hommes, alors là en l'occurrence ce sont des hommes, des mâles, qui se sont réunis, qui ont été réunis par le roi dans le cadre des états généraux en mai 89, on peut dire d'emblée qu'ils sont un peu fatigués. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Ils ont, alors lisez les archives parlementaires, moi je trouve ça fabuleux. Ils travaillent énormément. Ils ont construit un très grand nombre de lois. Ils ont construit une administration nouvelle. Et les malheureux, ils sont en train de terminer enfin, ce qui montre bien qu'il y a du conflit, c'est long, une constitution. Donc tout ça, c'est pour faire une constitution, c'est une constituante. Donc ils ont fait le préambule, la déclaration des droits en août 89, et en mars 91, ils en sont toujours à leur constitution, mais ils entendent bien la boucler. Alors ça a été lentement, parce que justement ça a été constamment contrarié par des débats très tumultueux et notamment constamment avec des mobilisations populaires qui interpellent l'Assemblée. Alors, où est-ce qu'on en est à ce printemps, outre l'usure peut-être relative de ces individus? On est dans une période, alors je ne sais pas s'il y a des périodes faciles, particulièrement tendues, notamment sur la question religieuse. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, là aussi c'est vieillerie. L'Assemblée nationale a pensé une nouvelle organisation de l'Église catholique, des églises de façon générale, mais en donnant un statut particulier à l'Église catholique. Et là-dessus, les émigrés, une partie du clergé très partisan de l'Ancien Régime, ont essayé de convaincre le pape qu'il ne faut pas accepter cette transformation. Le pape a beaucoup hésité et finalement, ce qu'il a sans doute décidé plus que tout à dire non, c'est l'annexion d'Avignon par les révolutionnaires français à la demande des révolutionnaires avignonnais. Mais d'un point de vue de stratégie politique, c'était quand même pas une bonne chose. Et du coup, le pape refuse cette constitution civile et ça crée les débuts de tensions religieuses qui vont être un aspect des conflits qui vont se nouer à partir de ce moment-là. Qui donc accentue la peur des membres de l'Assemblée de complot. Alors la peur du complot, elle est permanente, hein, là aussi elle apparaît avec les mouvements révolutionnaires eux-mêmes, mais l'idée qu'il y a notamment une partie de ce haut clergé émigré qui complote pour créer des résistances, créer des oppositions à l'intérieur du royaume. Bon, c'est pas totalement faux non plus, hein, y a un aspect de rumeur, mais il y a aussi de la réalité de réseau. Donc il y a cette situation religieuse que je voulais vous rappeler. Il y a évidemment l'importance de l'émigration, qui augmente, et notamment ce qui a contrarié, choqué le peuple de Paris, les sœurs du roi ont émigré en février 91. Ses frères ont émigré dès le début de la Révolution, mais il y a une accélération de l'émigration, y compris dans la famille royale, qui crée des doutes sur justement la fiabilité de l'engagement, y compris du roi, dans le processus révolutionnaire. Bon, alors pour aller un peu plus vite, notamment ce malheureux Louis XVI, en mars, je crois que c'est en mars, on lui interdit se masse autour du château et lui l'interdit de sortir de Paris alors qu'il voulait aller faire ses Pâques dans son château de Saint-Cloud. Alors, donc, c'est tout de même une liberté qui est un petit peu entravée du roi par quelque chose qui circule dans la population parisienne, une forme de doute sur la sincérité du roi. Un autre aspect que je voulais développer un peu plus, parce que je trouve que c'est particulièrement dans nos préoccupations aujourd'hui, et ça a accentué un mécontentement populaire, c'est la deux mesures concernant l'économie que vous connaissez sans doute, qui sont l'un un décret qu'on appelle Dallard, du nom de celui qui l'a proposé, bon, qui est un avocat spécialiste des questions fiscales, qui abolit les corporations. Alors, ce qu'on ne devrait pas appeler les corporations, parce que c'est un mot anglais, mais vous connaissez cette organisation ancienne des métiers dans la France d'Ancien Régime. Le fait qu'on ne peut pas s'installer librement pour entreprendre, etc. Alors, tout ça, c'est totalement contraire à l'esprit des Lumières. Déjà, les ministres libéraux avaient essayé de faire sauter ces carcans et n'avait pas réussi. Et les révolutionnaires de 91 trouvent déjà qu'ils ont beaucoup tardé et prennent donc un décret qui dit « À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce et d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon ». Et on ne sera tenu qu'à une chose que vous connaissez, c'est de se pourvoir d'une patente. C'est le nouvel impôt sur le commerce établi par les révolutionnaires. Donc, liberté de l'installation et liberté du marché du travail. Alors, ce qui m'intéresse un petit peu plus, peut-être pour comprendre une certaine animosité ou colère du peuple, c'est que cette liberté d'initiative, une partie notamment des compagnons parisiens, donc de ceux qui travaillent dans ces métiers sans être des maîtres, donc qui sont des salariés, n'étaient pas forcément mécontents de cette suppression, mais souhaitaient continuer à fonctionner collectivement comme ils le faisaient dans le cadre des métiers jurés, dans ce qui existe encore aujourd'hui, des devoirs, c'est-à-dire avec des règles communes qui, notamment, leur permettaient de négocier, y compris par la force, des prix de leur travail et aussi du temps, la durée de leur travail, avec des méthodes d'intimidation très éprouvées et assez efficaces, surtout en période de croissance économique, qui pouvaient mettre en marge justement du marché de l'embauche toute une catégorie de patrons qui s'étaient mal comportés, voire des villes entières, voire des quartiers entiers. Et tout ça, évidemment, c'est absolument épouvantable pour une grande partie de ceux qui sont à l'Assemblée et qui sont des hommes éclairés, partisans du libéralisme économique. Alors, ces compagnons, donc, ils continuent après le décret d'Allard, d'où une nouvelle loi que vous connaissez encore mieux, qui s'appelle la loi Le Chapelier, et qui est une loi, en fait, qui complète la première en disant qu'on n'a pas le droit de se rassembler sur des questions du travail. Le débat est assez savoureux, mais ce n'était pas mon sujet ce soir. Après, j'ai regretté de ne pas avoir polarisé là-dessus, parce que ce serait peut-être plus dans notre actualité, notamment ce qu'on appelle le côté droit, puisque dans la salle du manège, bon, il y a un côté droit, un côté gauche, et donc les plus conservateurs, progressivement, sont installés au côté droit, et ils disent « Ah, mais alors il faut interdire aussi les clubs, puisqu'il ne faut pas se coaliser, se mettre ensemble ». Et bon, ils ont très bien compris qu'il y a là une contradiction possible. Et le débat est vraiment très intéressant parce qu'on voit bien que cette bourgeoisie libérale, ça la met réellement en contradiction. Comment défendre le droit à s'assembler tout en interdisant le droit à s'assembler sur les questions du travail. Une autre question est aussi assez émouvante. C'est une question sur les chambres de commerce. Et il y a un malin qui dit « mais on ne va quand même pas empêcher les commerçants de discuter entre eux ». Et le chapelier répond non, quand même, on ne va pas empêcher les commerçants de discuter entre eux. Donc on voit d'emblée bon, qu'il y a là une contradiction. Alors, ces interdictions vont accentuer, on va dire, un fonctionnement libéral hein, du marché du travail qui accentue les difficultés économiques. Dans un premier temps, vous savez que les libéraux promettent toujours que ça ira mieux grâce à cette liberté, mais dans un premier temps, le peuple est très très inquiet face à ces mesures, et donc je tenais à le mettre dans le contexte. Pour finir tout à fait sur ce contexte, je voulais vous citer quand même un homme du cru, pas tout à fait, c'est l'abbé Jallet, qui est un curé de la Motte-Saint-Héré, et qui, comme vous le savez sans doute, et un héros trop méconnu, mais il est mort en 1791, c'est-à-dire un peu trop tôt dans la Révolution. Il est un de ceux qui a favorisé le rapprochement du clergé et du tiers-état dans les états généraux. Et cet abbé Jallet, il pose un autre problème qui m'intéresse aussi dans ce contexte des conflits sociaux, qui est celui des salariés paysans. Et il ose proposer à cette assemblée libérale que pour éviter les grèves, les moissonneurs faisaient ça dans l'ancien régime, ils essayaient de commencer par faire grève avant de se mettre à travailler. Donc c'était du personnel saisonnier qui se regroupait dans les régions où il y avait besoin de bras pour couper les blés l'été. Et avant de se mettre à travailler, ils négociaient les prix avec les patrons, ce qui est quand même très raisonnable, donc avec les gros paysans du lieu. Et l'abbé Jallet, en homme légaliste, il dit ben, pour éviter ces formes qui ne sont pas légales, eh bien, il faudrait les légaliser. Alors là, il n'avait pas tout compris. À ce moment-là, c'est très mal reçu dans l'Assemblée. Il y a des murmures, comme on dit, parce qu'il propose donc que chaque commune organise le 1er juillet un rassemblement de tous ses moissonneurs pour justement fixer le prix du travail. Donc on voit que, y compris dans l'Assemblée, hein, il y a des appréciations qui, comme tu le disais, ne renvoie pas à des groupes constitués, hein, à des courants. Chacun de ces individus peut d'ailleurs évoluer dans d'autres débats de façon qui peuvent nous apparaître contradictoires. Hein. Mais en tout cas, tout en pensant, lui, il pense être dans la même optique, en fait, il dit quelque chose qui est très différent et qui suscite des réactions très vives. Alors, donc... Après cette mise en contexte assez grossière, donc je vais dire quelques mots sur l'effet de colère et peut-être de construction politique liée à cette disparition du roi. Alors donc c'est le 21 juin et cette annonce de la disparition du roi, donc on ne sait pas ce qu'il est devenu, simplement on voit qu'il n'est pas là, crée un effet de sidération, un véritable abattement et des constituants et de la population. Ça a été très bien étudié, enfin, y compris j'avais fait travailler une étudiante là-dessus sur la diffusion de cette nouvelle dans le territoire. Donc la sidération n'arrive pas au même moment hein, partout, donc il faut 3 jours, 4 jours, bon, ça dépend de l'éloignement par rapport à Paris. Mais partout, ça fait un effet de choc terrible. Même si on avait des doutes, de toute évidence, ça renvoie à une représentation qui restait tout de même assez favorable du roi, avec l'idée que peut-être il était mal entouré. Vous savez que ça fait partie hein, de ce qui circule autour dans toutes les monarchies, mal conseillé, etc. Mais que lui-même, ayant prêté serment, il a prêté serment à la loi, à la nation, au roi, il est engagé et que son engagement apparaît comme ne devant pas être vraiment interrogé. C'est ce que pensent beaucoup de gens, c'est la raison pour laquelle il était assez mal surveillé. Ensuite, on va le reprocher justement au commandant de la garde nationale parisienne, Lafayette. Certains donc, ont dans la tête que Lafayette est complice, a aidé à cette disparition. En fait, il semble bien que ce ne soit pas le cas, mais que Lafayette est vraiment convaincu que le roi était sincèrement engagé. Donc, un effet, dans un premier temps, de sidération, avec l'idée que le roi est certainement parti à l'étranger, et ça provoque, on va dire, des paniques. À l'époque, on appelle ça des peurs, et notamment un de nos collègues a renouvelé ses études en disant qu'on a là à nouveau une peur qui débouche sur des formes de terreur, on va dire sur une première terreur, en montrant que ce qui est généralement assigné à la République et au gouvernement révolutionnaire de l'an 2, en fait, on le voit déjà présent avec les mêmes formes de recours politiques dans des crises qui précèdent et singulièrement dans celle-ci. Alors, donc, l'idée, c'est que ça va être la guerre, que le roi est parti à l'étranger, va revenir avec des troupes. On sait qu'une partie des immigrés sont à la tête de bataillons et sont prêts à marcher sur Paris avec des troupes étrangères. Alors, c'est aussi une façon, dont tu parlais des acteurs, de nous remettre dans une histoire qui n'est pas écrite d'avance. Donc, en revivant, bon, on s'amuse à se faire peur, un peu la peur qu'on pu, enfin, essayant au moins de la comprendre. C'est-à-dire que, évidemment, ces hommes de 91, ils ne savent pas qu'en fait, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Eux, ils sont même très convaincus du contraire. Ils sont environnés, d'ailleurs, de pays dans lesquels les révolutions libérales ont échoué et ont été notamment vaincus par des armées étrangères. C'est le cas notamment aux Pays-Bas, c'était le cas à Genève, par les armées de la monarchie française, d'ailleurs. Donc, on sait qu'une armée étrangère, ça met facilement par terre un mouvement révolutionnaire, et c'est d'ailleurs l'exceptionnalité de la Révolution française que d'avoir fait face, finalement, à des coalitions d'armées étrangères, puisque à peu près toute l'Europe sera en guerre en 93 contre la République. Mais à l'époque, on n'en est pas là, mais il y a vraiment l'idée est tout de suite présente hein, de la guerre. Avec l'idée de la guerre, l'idée du complot, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des gens qui suscitent le désordre, notamment, avec ce qu'on va retrouver dans tous les mouvements révolutionnaires, je pense, cette ambivalence sur les mouvements qui suscitent du désordre et qui sont très souvent taxés de mouvements contre-révolutionnaires, de mouvements qui sont faits pour diviser, pour faire peur, pour justement mettre en difficulté hein, la révolution. Alors, cette peur, ça se traduit par un changement immédiat, qui est un changement d'importance, qui est le fait que l'Assemblée vote tout de suite le fait qu'on va se passer de la signature royale et que donc on continue le processus délibérant et que finalement on se passe de roi. D'où l'importance de cet épisode, même si ensuite un grand nombre de constituants vont vouloir revenir en arrière et dire non, on ne peut pas gouverner sans le roi, mais c'est quand même leur premier réflexe. Une autre proposition qui est faite et qui revient constamment dans les moments comme ça de crise, c'est l'idée de transformer l'exécutif, donc de se passer des ministres, sachant que les ministres sont jusque-là et le seront jusqu'en août 92, jusqu'à la République, ce sont des ministres du roi, et c'est un exécutif qui a un pouvoir qui est fort dans la constitution qui se met en place. Donc, dans ce contexte de crise, de dire, eh bien, on va créer une instance extraordinaire. Donc, on est du côté de l'exception, y compris pour ces hommes très légalistes, un comité de salut public. Et cette expression de salut public, donc, elle est loin de dater hein, de l'an 2, et en fait, c'est une expression qui revient, et cette idée de former... Alors, je pourrais vous faire part des débats. Hein, évidemment, on retrouve des clivages politiques autour de ce choix de l'exceptionnalité, d'un changement très radical, de se passer hein, de ministre. Et finalement, on décide qu'on ne va pas créer ce comité de salut public, donc on s'en tient à la formule ancienne, mais les ministres vont être sommés de venir s'installer à côté de l'Assemblée pour travailler avec l'Assemblée. Autre aspect qui là aussi est important, c'est que ces hommes se rappellent qu'ils sont constituants, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'après tout, eh bien, si on n'a plus de roi, c'est eux qui décident, hein, puisque c'est eux. Leur légitimité, c'est de donner une constitution. Et comme ils doivent donner une constitution, eh ben, ils peuvent changer, etc. Il faut peut-être que j'aille un peu plus vite. Alors, je voulais vous lire quand même les propos d'un des ténors de cette assemblée, qui est un de ces juristes profondément légalistes, qui s'appelle Lamette, et qui dit « Les moments de crise ne peuvent être assujettis aux formes rigoureuses qu'on a devoir d'observer en temps calme. » Donc, vous voyez, cette notion de moment de crise, c'est ce qu'on retrouvera chez Robespierre dans de nombreux discours. Au moment du gouvernement révolutionnaire, on n'applique pas la Constitution parce qu'on est dans un mouvement exceptionnel. Donc, on n'est pas dans un temps calme et il vaut mieux faire une justice momentanée, donc quelque chose d'exception, que de perdre l'État. Donc une très forte conscience hein, de la fragilité de leur construction et le recours à des mesures d'exception. Un autre aspect qui là aussi est déterminant au niveau des représentations du pouvoir et de la place du peuple peut-être encore plus, c'est la question de la levée en masse. On voit tout de suite le réflexe de l'Assemblée qui est de dire eh bien, il nous faut une armée plus puissante, il nous faut une armée dans laquelle il y ait des gens qui ne soient pas que des officiers de l'ancien régime, et cette expression hein, de levée en masse, elle apparaît immédiatement avec l'appel à des volontaires. C'est ça, l'idée de lever en masse, c'est la guerre populaire, qui là aussi va rester un des paradigmes des situations révolutionnaires. À une révolution, il faut une armée révolutionnaire. Ici, l'ambition est relativement réduite par rapport à ce que l'on verra ensuite, parce que réellement, ce sont les armées révolutionnaires qui vont sauver la révolution, avec ces énormes armées comme on n'en avait jamais connues jusque-là, de 500 000 hommes, enfin, ce qui pour l'époque apparaît considérable. Là, on décide de lever 3 000 hommes par département. Donc, vous voyez qu'il y a 83 départements, vous pouvez faire le compte. Donc, c'est une levée en masse de modérés, hein, quand même. Alors, autre aspect qui va aussi être repris dans d'autres moments de crise, c'est l'envoi de députés dans les départements. Sachant que c'est une caractéristique de cette révolution d'être une révolution, contrairement à ce que l'on dit trop souvent, très peu centralisée. Et ce sera une des difficultés constamment. En fait, il y a très peu de liens entre les autorités nationales, notamment la souveraineté de l'Assemblée, et les autorités locales qui sont toutes élues, puisque c'est le système de la représentation qui fonctionne partout, et qui donc sont en fait complètement disjointes. D'où, dans les moments de crise, cette idée d'envoyer directement des députés, qu'on appellera ensuite des représentants en mission, mais peu importe, et ici c'est bien la même idée, et de leur donner un pouvoir très étendu, pour un temps très limité, et notamment en les envoyant vers les frontières. Donc on est bien dans une perspective hein, de faire face à la guerre. L'autre aspect, c'est la crainte des mouvements populaires, avec ce que l'on oublie peut-être trop, c'est que les moments du 14 juillet que nous avons tendance à célébrer comme des fêtes assez bon enfant, en fait, ont laissé des souvenirs quand même très mitigés à cette bourgeoisie révolutionnaire. Je parle du 14-15 juillet 89, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même des têtes qui ont fini sur des pics, hein, et qu'aussi le peuple s'est armé, a détruit la Bastille et ensuite n'a plus eu l'intention de se désarmer, ce qui a été et ce qui est encore à l'époque d'ailleurs un problème, comment faire pour ramener ces citoyens qui ne sont pas des citoyens actifs, donc à part entière, parce qu'ils sont trop pauvres, à rendre leurs armes, puisque en fonction de la légalité que les autres sont en train de mettre en place, ils n'ont pas le droit d'être armés. Donc, danger qui est ressenti d'une crainte populaire, d'où ces mesures qui sont prises très très vite pour éviter des mouvements de panique et de mobilisation populaire. Alors, ce que nous montrent les études, et notamment de notre collègue américain Timothy Tackett, donc, qui a travaillé là-dessus, « Le roi s'enfuit », donc c'est la traduction française, il montre qu'il y a les mêmes phénomènes que justement en juillet 89, notamment dans les campagnes, des phénomènes comme pendant ce qu'on appelait la grande peur, de mobilisation de villages entiers qui s'arment, qui organisent leur défense, qui vont attaquer des châteaux en pensant qu'une partie de l'aristocratie est potentiellement traite ou de la noblesse et que donc il faut se défendre contre ses ennemis à l'intérieur du royaume. Second point, eh bien, c'est le fait que, comme vous le savez, un malheureux aubergiste, très bon patriote, a reconnu le roi et que le roi est finalement arrêté avant d'arriver à la frontière. Alors, c'est un second temps. La nouvelle de l'arrestation du roi va changer les termes du débat et, en fait, va rendre la situation beaucoup plus complexe. Cette arrestation, alors si ça vous intéresse, lui il a détaillé ça énormément, avec cet aspect de vaillance de ce maître de poste qui ne veut pas lâcher, qui lui a vraiment reconnu le roi, etc. Et ce retour du roi à Paris, encadré par certains députés, dont un certain Barnave, qui, à partir de ce moment-là, va se rapprocher de la monarchie. Je ne sais pas si vous avez vu différents films, notamment sur Marie-Antoinette, puisque, dit-on, il aurait cédé au charme de Marie-Antoinette, ce qui aurait changé en partie son positionnement politique. C'est une autre dimension, et va libérer la colère du peuple sur le fait que le roi est véritablement parjure. Alors, il est d'autant plus parjure que, comme vous le savez, il a laissé une lettre pour expliquer son départ et en disant que depuis le début de la Révolution, il se sent humilié, qu'il a perdu son pouvoir et qu'il entend le reconquérir. Le roi a préparé une autre version et va dire aux enquêteurs de l'Assemblée qu'en fait, il voulait simplement quitter Paris, quitter ce méchant peuple parisien qui l'agresse, et donc s'arrêter avant la frontière, et donc il a quitté Paris, mais il n'avait pas déserté le royaume. Alors, cette situation nouvelle, elle va d'une part créer... amplifier le mécontentement populaire, elle va aussi diviser l'Assemblée entre ceux qui désormais vont souhaiter rétablir absolument le roi en effaçant sa responsabilité. C'était déjà le cas d'une partie, on va dire, de la droite de l'Assemblée, des partisans de la monarchie les plus déterminés, qui avaient dès le début protesté contre une hypothétique suspension du roi. Mais le retour du roi va accentuer cette division. Alors, si on avait le temps, on pourrait aussi lire les différents débats qui ont lieu dans les assemblées, aussi dans les clubs politiques. Je vous lis juste un passage de Robespierre qui se bat jusqu'à la fin pour que l'on revienne sur la question de l'inviolabilité royale. puisque ce que les plus conservateurs de l'Assemblée mettent en avant, c'est que l'Assemblée a voté le fait que le roi est inviolable. Donc, quoi qu'il fasse, on ne peut pas revenir là-dessus. Et Robespierre veut qu'il y ait un débat là-dessus, et il propose avec d'autres que ce soit d'abord soumis à la nation, hein, qu'il y ait un vote de l'ensemble des Français pour savoir s'ils sont d'accord pour conserver au roi son inviolabilité. Alors, ces débats sont donc très, très vifs, se situent sur une période très courte et, j'ai oublié de le dire, très tardive par rapport à l'événement du 22 juin. Alors, pourquoi est-ce que c'est si tardif ? Ça se situe donc autour du 14 juillet, 15, 16, 17 juillet, parce que la majorité de l'Assemblée, justement, a voulu laisser passer du temps pour éviter que ce soit la colère qui impose les décisions. Et ces gens qui se considèrent comme très sages considèrent que justement la colère du peuple est quelque chose qui est lié à son impatience, mais à son manque de lumière, et que donc en attendant, en faisant enquêter des comités de l'Assemblée, eh bien, on va faire attendre le peuple et sa colère va retomber avant que des décisions définitives soient prises. De ce fait, le débat intervient donc plusieurs semaines, donc ça fait 3 semaines après les événements. En fait, l'effet a plutôt été contraire, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, il y a plutôt une radicalisation du peuple sur la méfiance vis-à-vis du roi et sur le discrédit de la monarchie. Donc ça, on le voit très bien dans les journaux qu'on qualifie à l'époque de plus avancés, c'est-à-dire qui avancent effectivement dans le sens de la destitution du roi. Et qui, en fait, l'opinion avance pendant ce temps, alors que l'Assemblée a choisi cette mesure dilatoire pour justement faire retomber l'animosité populaire. Et le débat donc à l'Assemblée est très rapide et très violent, mais très vite clos. Le résultat de l'enquête des officiers, des comités de l'Assemblée est donné le 15, et ces résultats innocentent Louis XVI. Donc c'était prévisible, d'où d'ailleurs les mobilisations populaires dans les sections, bon là j'ai pas le temps de détailler, dans les différentes structures justement de ce sans-culottisme parisien, dans un certain nombre de sociétés fraternelles, de clubs, en particulier le club des Cordeliers, mais aussi aux Jacobins. Innocence du roi. Et avec tout de même quelques mesures prises par prudence pour justement éviter de susciter la colère du peuple, c'est-à-dire que les pouvoirs de Louis XVI restent suspendus jusqu'au vote de la Constitution. Donc on va d'abord terminer la Constitution, on ne va pas redonner aux opposants au roi des arguments, notamment parce que Louis XVI s'oppose constamment aux décrets de l'Assemblée, donc on suspend ses interventions dans une optique de retour au calme. Oui, je vais arrêter bientôt. Donc, je vais essayer d'aller vite. Et donc, le 15, une majorité de l'Assemblée, en dépit donc, de l'opposition d'un tout petit groupe de députés, Pétion, Robespierre, vote sur la thèse de cette commission de l'Assemblée. Et ce résultat, quand il est connu, va en fait complètement court-circuiter la mobilisation populaire. En fait, à ce moment-là, un certain nombre de gens dans des clubs se sont réunis pour écrire une pétition qu'ils vont présenter à l'Assemblée, et ils arrivent à l'Assemblée avec leur pétition, ils demandent à être reçus, et on leur dit que ben non, c'est voté, l'Assemblée a décidé d'accepter la thèse de ces comités. Et donc c'est cette situation qui va provoquer un renouveau de colère et une très grande agitation, en particulier dans Paris, pour essayer d'imposer malgré tout à l'Assemblée qu'elle revienne sur cette décision. Avec des mobilisations autour de l'Assemblée. Les députés, quand ils rentrent dans l'Assemblée, ils se font huer au nom de traîtres, etc. Du coup, ça fait monter de leur part aussi une animosité contre ce peuple parisien, parce qu'ils ont, ils ont peur, ils se font insulter. Pendant ce temps-là, les clubs, notamment, discutent pour savoir si on organise une grande manifestation, donc on retrouve l'aspect de construction politique, avec l'idée que plusieurs clubs, et notamment celui qui a le plus de pouvoir politique, le club des Jacobins, s'allient pour écrire un texte et organiser une grande manifestation à travers Paris, mais tout ça, il faut aller très vite, avec qui partirait de la Bastille. Donc vous voyez qu'on retrouve des pratiques qui sont devenues fréquentes. Donc à l'époque, on est encore un peu sur les ruines de la Bastille, mais c'est un lieu très fortement symbolique, au cœur d'un des quartiers ouvriers les plus dynamiques politiquement, le Faubourg Saint-Antoine de Paris, et d'aller de la Bastille au Champ de Mars, qui est un autre lieu hautement symbolique, puisque c'est là que se sont réunis tous les volontaires nationaux des départements dans la fête de la Fédération le 14 juillet 1790. Donc c'est lié, les deux moments de la Révolution, et autour d'un texte qui demande de revenir à l'Assemblée, de revenir et d'avancer sur la déchéance du roi. Cette manifestation ne va pas pouvoir avoir lieu parce que, vous connaissez ce que c'est, les gardes nationaux en fait empêchent la foule de converger vers la Bastille. Donc il y a un peu de désordre dans cette organisation et finalement les manifestants vont se débrouiller pour aller directement chacun par leur itinéraire sur le Champ de Mars. Alors, le Champ de Mars, il y a donc un hôtel de la patrie, et sur ce Champ de Mars, donc, convergent le 17 juillet des dizaines de milliers de personnes, parce qu'en plus, le 17 juillet, c'est un dimanche, en plus, il fait assez beau, et le Champ de Mars est un lieu de promenade important. Donc, outre les manifestants, il y a beaucoup de monde, on pense qu'il y avait près 50 000 personnes, et ce rassemblement donc commence dès le matin, et ça commence très mal parce que les premiers qui arrivent découvrent deux individus cachés sous, comme on serait caché ici, sous l'autel de la patrie. Prennent ces deux individus pour peut-être des opposants à la manifestation. En fait, il semble bien que c'était deux personnes qui s'étaient cachées là mal à propos avec du vin, mais du coup, il y a l'idée que c'est peut-être de la poudre, un tonneau, bon, etc. Que donc ils veulent faire exploser ces tonneaux quand la foule sera rassemblée. Et ces deux personnes sont d'abord prises en charge et puis finalement massacrées, pendues par la foule. Alors cet épisode, du coup, renforce l'hostilité de l'Assemblée et toute la journée, l'Assemblée nationale demande à la municipalité de Paris, puisque c'est la municipalité qui doit déclarer la loi martiale, de faire intervenir les gardes nationaux, de faire intervenir la force pour disperser cet attroupement. La municipalité, comme souvent les municipalités, résiste parce qu'elle sait que l'impopularité retombera sur elle. Mais bon, j'ai pas le temps de vous lire donc les propos très très alarmistes de l'Assemblée, notamment de Charles Lamette que je lisais tout à l'heure, qui dénonce le laxisme de la municipalité, etc. Et finalement, en fin d'après-midi, donc la loi martiale est proclamée, le drapeau rouge est donc levé sur l'hôtel de ville de Paris, et la troupe arrive au Champ de Mars. et dans des conditions qui sont très, très confuses. Alors, si vous lisez les journaux de l'époque, vous avez eh bien, les différentes opinions. Si vous êtes favorable à la pétition et à ces mobilisations populaires, eh bien, les journaux disent que les gardes nationaux ont tiré sans procéder aux trois sommations qui sont légales dans la loi martiale. D'autres favorables au pouvoir disent que les sommations ont bien été dites, mais que les meneurs du mouvement ont dit de ne pas bouger, de ne pas se disperser, et que donc ce sont eux qui sont responsables du massacre qui va suivre. Alors, réellement, il y a beaucoup de confusion. Les responsables, alors on retrouve peut-être l'aspect construction des clubs, avaient dit qu'il ne fallait pas prendre d'armes, donc pas de bâtons, pas de pierres, pour bien montrer qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique et aussi pour ne pas tomber sous le coup de la répression la plus dure en cas d'arrestation, la loi martiale condamnant à mort ceux qui, qu'on trouve armés. Et en dépit de ça, il y a quand même, y compris des victimes qui ont été trouvées avec des pierres dans les poches, et effectivement, il y a des pierres qui ont volé sur un certain nombre de gardes nationaux, dont quelques-uns sont morts des suites de ces blessures, et du coup, ça justifie la répression. Alors, c'est une rupture très importante dans le mouvement révolutionnaire, puisque c'est une des premières fois où massivement, il y a déjà eu de la répression, il y a eu beaucoup de, notamment de pendaisons dans les campagnes, contre des émeutiers qui ont attaqué des châteaux, des convois de marchandises, etc. Mais contre une manifestation justement organisée avec ces clubs qui sont légaux, dans des formes de pétitions qui sont également légales, ça provoque un très grand discrédit de l'Assemblée, et ça fait monter, donc, y compris dans ces événements, et rédiger un texte qui demande la destitution du roi, mais aussi une nouvelle constitution. Donc finalement, il y a une perspective nouvelle politique qui est ouverte par cet événement, que la bourgeoisie, dans un premier temps, la bourgeoisie constituante, essaie de minimiser en disant qu'il n'y a rien à dire, notamment la presse avancé, donc le journal de Marat, le journal de Hébert, Danton, etc., sont interdits, enfin les journaux sont interdits, ces journalistes fuient, soit en province en essayant de se cacher, soit à l'étranger, notamment en Angleterre. Donc on a un moment de répression très, très violent, la fermeture du club des Cordeliers avec des canons devant la porte du club, et donc pour faire admettre en force l'interprétation de l'Assemblée. Donc on peut penser que dans ce moment de l'été 91, eh bien, finalement l'événement est refermé. En fait, c'est faux. D'une part, il va y avoir, mais ça c'est pas le plus important, une amnistie à la fin de la constituante. Donc les constituants décident qu'ils amnistient tous les crimes politiques commis pour que la nouvelle Assemblée reparte dans une unanimité nationale, mais ça laisse des traces très profondes avec la constitution d'un courant républicain qui va développer, notamment dans ces clubs parisiens, l'idée que le roi est illégitime, qu'on ne peut plus lui faire confiance et qu'il faut une nouvelle constitution. Donc voilà, donc je vais finir là-dessus.
Merci beaucoup.
Et j'ai quand même oublié de dire que cet événement est immédiatement qualifié, et j'aurais dû le dire dès le début, de Saint-Barthélemy des patriotes. Et on retrouve de la part des révolutionnaires toujours ces réemplois de l'histoire que nous faisons peut-être nous aussi à notre façon, donc qui qualifie bien cet épisode comme un événement traumatique.
Une remarque toute naïve pour commencer et qui va nous ramener très très en arrière par rapport à ton exposé très focalisé. Au fond, quand même, quand j'étais à l'école, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on nous a quand même peu parlé des violences avant 1792. Dans le souvenir que j'en ai, c'est on organise un séquençage de la Révolution avec un moment de débat et de construction parlementaire, en quelque sorte, et après un moment plus de concentration étatique. Or, c'est ça que tu... Enfin, c'est un des aspects qui sont remis en cause par ce que tu dis.
Oui. C'est ça que je voulais dire, je crois. Ça devait être assez clair. Et oui, je crois que c'est très important de décloisonner... Ce moment révolutionnaire dans lequel, évidemment, il y a beaucoup de continuité. Hein, il y a beaucoup de continuité, notamment des êtres humains qui sont les mêmes. Hein. Alors on pourrait dire méchamment pour ceux qui survivent. Mais de fait, ils ont à la fois une culture partagée, qui est différente selon les générations, on pourrait rentrer plus dans le détail, mais qui est en grande partie partagée parce qu'ils ont été éduqués dans les mêmes collèges d'Ancien Régime, etc. Et puis en même temps, il y a dans le processus révolutionnaire des expériences qui sont différentes et des lectures, des événements qui sont différentes et qui amènent à ces positionnements. Oui, enfin, c'est ce que j'ai dit n'est pas du tout original. Hein. On est beaucoup à procéder comme ça en ce moment et on fait beaucoup ça en histoire. Je pense que vous faites la même chose, c'est-à-dire qu'on déconstruit un peu la façon dont les autres ont construit. Ce qui est une façon de faire penser un peu autrement, enfin, on va dire avec nos propres questions du moment. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sophie Vanisch dont je parlais au début, qui, elle, essaie de comprendre notamment la violence de 92, dont je n'ai pas parlé ici, de l'été 92, et la prise des Tuileries, mais aussi cette colère populaire qui fait que les volontaires ne veulent pas partir sur le front parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont laisser en arrière des traîtres, enfin des contre-révolutionnaires. Et c'est ce qu'elle a appelé la longue patience du peuple, en disant le peuple est bien patient, mais il y a des moments où sa patience est à bout. C'est des lectures qui se rejoignent. Moi, j'insisterai peut-être plus. Bon, là, c'était pas vraiment le propos dans lequel que j'avais annoncé, mais de plus en plus, j'insisterai plus sur les questions, disons, socio-économiques. Parce que le problème de nos lectures, en fait, on a fait beaucoup d'histoire socio-économique de la Révolution française, du temps où on était dans les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, sans doute plus marqué par des grilles marxisantes, en tout cas plus sur le socio-économique. Actuellement, on est plus sur le politique et notamment sur l'idéologie à travers ce que je vous ai lu, c'est des discours d'assemblée. Hein. En même temps, les questions économiques sont très 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 présentes et même dans les débats d'assemblée.
Du coup, ça amène peut-être à préciser le peuple. Du coup, quand tu dis le peuple, c'est un peuple en colère pour des raisons économiques, en partie. Celui qui marche sur l'assemblée, les revendications, elles sont très tournées vers le politique ou elles sont aussi tournées vers la misère, la pauvreté, le manque de denrées ou le manque de circulation de produits ou de taxes ou je ne sais quoi.
Oui, c'est une vraie question, hein, cette articulation entre les mobilisations alors, qui sont vraiment rémanentes hein, pour la question du prix des marchandises, hein, plus que le prix du travail, c'est la question du prix des denrées. Bon, là aussi, ça n'apparaît pas du tout avec la Révolution. Et il y a vraiment une mobilisation permanente liée à tout, justement un contexte nouveau qui est une promesse d'égalité que les gens ont très bien entendu, et ils l'ont entendu partout, ils l'ont entendu dans les colonies, les esclaves l'ont entendu, les femmes l'ont entendu, c'est-à-dire que tout le monde se saisit de cette promesse d'égalité qui est dans la Déclaration des droits, et cette promesse de transformation de tout ce qui apparaissait comme des charges insupportables, notamment bon, toute la fiscalité d'Ancien Régime, dans toutes ses formes. Donc il y a une attente qui est énorme, et cette attente, elle apporte certaines satisfactions, notamment sur la question fiscale. Hein, la fiscalité nouvelle va se mettre tardivement en place, mais en même temps, un certain nombre de droits anciens restent à payer, et vous savez que notamment les droits féodaux en nature n'ont pas été abolis, mais au nom de la propriété. Et donc la question du conflit majeur entre... qui est sans doute ce qui travaille nos sociétés aujourd'hui, encore entre des droits fondamentaux, la liberté et le droit de propriété, ça saisit immédiatement les acteurs de la Révolution. Et là aussi, dès 89, les pillages, comme ici à Poitiers, de ce gros marchand Blattier, marchand de grains qui est tout à fait bon patriote, hein, qui est... gendre d'un notable avocat qui est élu aux États généraux, qui incarne tout à fait cette bourgeoisie libérale. D'ailleurs, il va être remboursé de ses biens saisis par l'Assemblée constituante. Ça montre bien immédiatement cette contradiction des promesses. Et les constituances avancent très lentement sur l'idée, et certains plus que d'autres, et notamment c'est le cas de Robespierre, qui écrit dès 91 des textes sur la question des subsistances, en disant, est-ce que, notamment sur la loi martiale, il dit, quand un peuple demande du pain, mais il n'est pas le seul à le dire, Pétion le dit aussi, est-ce qu'on lui répond par des fusils ? Non. Si le peuple a faim, il faut chercher pourquoi il a faim. Alors, lui, il ne met pas, dans un premier temps, en cause le libéralisme économique. Il n'a pas ça comme outil de pensée. Il dit, c'est qu'il y a des complots. C'est qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle à l'époque des agioteurs, des monopoleurs, ce que nous, on appellerait des spéculateurs, et qui font monter les prix. Et ce n'est pas faux. Et évidemment, ça va avec la liberté du commerce. Et donc, progressivement, il y a de ces libéraux qui voient bien qu'il y a une contradiction et qui cherchent à la dire, d'où des concessions qui sont peut-être plus des concessions aux revendications populaires que véritablement des infléchissements de représentation politique. Mais c'est très clair, et c'est ce qui notamment va faire que... sous pression populaire, on va arriver à ce fameux maximum des prix, bon, qui est une façon de répondre à ce qui est une revendication permanente du peuple, que les prix doivent permettre au peuple de se nourrir, et qui a un droit à l'existence qui est au moins aussi fort que le droit de propriété. Et ça, là-dessus... Robespierre a beaucoup avancé, mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, entre ses analyses de 89-90 et ce qu'il écrit sur les subsistances, notamment dans sa déclaration, son projet de déclaration des droits du printemps 93, qui est sans doute les textes pour l'époque qui avancent le plus dans le sens de... eh bien, on n'a pas le droit d'affamer son prochain. Lui, il dit, c'est fratricide. Et de son point de vue, qui est avant tout un point de vue moral, dans une société de l'égalité des droits, du contrat social, on ne peut pas être, il dit aussi, homicide. Les hommes ne peuvent pas, en société, se tuer les uns les autres. Et donc, le droit de propriété ne doit pas amener à tuer son prochain. En le faisant mourir de faim. Hein, d'où l'importance de cette question des subsistances et d'où des solutions qui sont tentées, comme les greniers d'abondance, comme le grand livre de la bienfaisance nationale, et comme cette affirmation que vous connaissez, qui est conservée, atténuée dans la Déclaration des droits de 1793, qui est que la société doit assistance aux citoyens qui ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins. Et c'est ce qui fait que cette déclaration et la constitution qui suit, qui est la première constitution démocratique, qui n'a jamais été appliquée puisque suspendue dans le cadre justement du gouvernement révolutionnaire à l'automne 93, va rester ce idéal, hein, de justement justice sociale, ce qui est sans doute exagéré par rapport à la peut-être la pensée de ceux qui l'ont produite, mais qui en tout cas va avoir cet aspect propulsif pendant tout le 19e siècle, l'idée qu'il est possible d'assigner à la société des conditions de vie, alors nous on dirait décentes, bon, le vocabulaire n'est pas le même, on est du côté de ce que Robespierre appelle l'honnête pauvreté, qui est tout à fait différente de la misère, qui est le fait que l'on est un citoyen libre sans être riche, sachant que le luxe évidemment ne relève pas du bon républicain.
Bonsoir, j'avais une question sur la contextualisation un petit peu, c'était pas ma principale question, mais c'était sur l'aspect où vous disiez par exemple qu'ils n'avaient pas adhéré à la pensée libérale, enfin Robespierre n'avait pas adhéré, n'était pas contre le libéralisme, mais parlait de comploteurs. Donc je me posais la question de la contextualisation historique de la catégorisation que vous appliquez, et est-ce qu'il n'y a pas possiblement le raisonnement qu'il appliquait dans l'époque à laquelle il appliquait, est-ce que ça ne peut pas finalement être un raisonnement entre guillemets contre les libéraux, plutôt que de dire que ce n'est pas du tout ce qu'il faisait, puisque les termes qu'il utilisait étaient les termes du contexte de l'époque. J'avais aussi la même question un petit peu sur les corporations, dans le sens où vous avez présenté leur intérêt positif qui était de défendre les membres de ces corporations, peut-être au détriment de patrons ou d'autres personnes ou du fonctionnement des choses. Et donc du coup, de leur rôle en tant que peut-être ancêtre, pas direct des syndicats, mais peut-être pré-syndical ou je ne sais pas, mais parce que vous avez parlé un petit peu de ce rôle quand même qu'ils avaient, qui était de protéger les adhérents et de pouvoir même négocier le prix du travail. Et donc du coup, je crois plutôt que la loi Chapelier s'était tentée de détruire cette capacité, même s'il y avait d'autres intérêts qui peut-être pouvaient aussi rassurer le peuple, qui avait quand même cet intérêt de détruire cette puissance de pouvoir s'organiser entre soi et de négocier plus ou moins les prix de son travail. Et finalement, j'avais une autre question. Ah mince, je l'ai perdu.
Oui, enfin, c'est pas vraiment des questions. Enfin, vous avez sur la question du complot. Oui, ça renvoie à une histoire des représentations. Bon, peut-être on pourrait plus développer que je l'ai fait ici. Ça a été beaucoup utilisé pour mettre en cause justement y compris la rationalité de ces acteurs révolutionnaires. Sans doute qu'il y a, une obsession, hein, du complot. Il y a aussi une réalité des réseaux contre-révolutionnaires qui sont pas très bien étudiés, mais qui sont réels. Alors, notamment dans les régions frontalières, avec des passages d'informations, d'argent, avec des liens avec l'étranger, avec des princes étrangers qui sont avérés, hein, des correspondances, etc. Donc, il faut aussi prendre la mesure, je crois que c'est ce que essaient de faire tous les collègues que j'ai cités, de cette très grande tension de tous les acteurs, enfin de cette incertitude de ce moment, dont évidemment personne ne sait ce qu'il va en advenir, et aussi c'est très difficile de penser le succès de quelque chose de tellement neuf, surtout à l'échelle d'un très grand pays. Il y a vraiment cette idée que, notamment, bon, c'était beaucoup répété pour la République, qu'une grande nation, bon, c'est peut-être ce que nos présidents actuels essaient de nous recréer, ont besoin d'être incarnés très fortement dans une figure du pouvoir tutélaire, d'où l'importance de la monarchie. Il y a toute une réflexion politique sur comment faire pour éviter l'atomisation dans un territoire qui, à l'époque, paraît très grand, paraît très divers, et une population qui aussi paraît très nombreuse. Il y a 28 millions d'habitants dans ce royaume, et le royaume de France a toujours eu la réputation d'être très populeux. On considère qu'à l'époque, le nombre des hommes, c'est la source de la richesse, donc c'est aussi une explication de sa richesse, et du coup qu'on a là une situation tout à fait particulière qui rend difficile la pensée d'une république, parce qu'évidemment la pensée d'une république, elle n'est pas étrangère à la pensée politique de ces hommes, bon, qui notamment connaissent tous très bien la république romaine. Il y a d'autres exemples de républiques contemporaines, notamment en Suisse, donc il y a cette question de l'échelle, d'où aussi chez certains de ses constituants la nécessité de maintenir ce roi, même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir, même si on prévoit de pouvoir lui enlever encore du pouvoir s'il se tient pas bien, mais d'avoir besoin de cette figure qui justement transcende la diversité des intérêts, des régions, etc. Alors, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Sur la loi Le Chapelier, oui, je pense que... sur les corporations... Oui, alors, je ne voudrais pas donner l'impression... il ne s'agit pas de nostalgie par rapport aux corporations. Il s'agit, là aussi, de mesurer ce que pour des individus qui ont vécu très mal le système des métiers jurés, parce que, comme beaucoup de structures à la fin de l'Ancien Régime, elles sont bloquées, elles sont fermées. C'est ça qui fait la révolution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de rentrer. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, on ne devient plus maître si on n'est pas fils de maître. Et le prix des maîtrises augmente, etc. Donc, on a toute une catégorie de jeunes, et c'est le cas dans beaucoup de situations sociales, qui se trouvent à la porte de là où ils voudraient rentrer. Et bon, on a dit beaucoup que c'était cette acculturation exagérée, ces études trop longues, je ne sais pas si c'est le cas aussi aujourd'hui, qui ont été un terreau de la révolution. Tous ces jeunes gens, bon, c'est en particulier des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont de plus en plus instruites et qui ne trouvent pas à employer leur instruction, qui ne trouvent pas de fonction sociale à la hauteur de leurs ambitions et de ce qu'on appelle à l'époque leur talent. Donc, ces compagnons, ils ne sont pas contents du système. Et donc, ils sont très contents que tout ça, ça saute. Mais en même temps, ils ont leurs habitudes de fonctionnement, et c'est ça qui choque la bourgeoisie libérale, c'est qu'ils voient bien qu'ils continuent. Et d'ailleurs, ils vont continuer. On a des témoignages, on a un collègue qui vient de faire une thèse, enfin, il y a quelques années, sur les ouvriers nantais. Et il montre bien comment, très longtemps, les ouvriers continuent à se regrouper, et notamment, comme c'est souvent le cas quand il y a des interdictions politiques, ils mettent en avant d'autres critères que la question économique pour se regrouper, et on insiste beaucoup sur la dimension religieuse de ces groupes. En même temps, c'est quand même des groupes de métiers. Et quand on lit les rapports de la police, on voit très bien que la police s'en méfie beaucoup. Donc là, je suis plutôt sous l'Empire, parce que on sait qu'ils cherchent à travers ça à maintenir des groupes qui, le cas échéant, vont faire pression. Mais du coup, on leur interdit de rentrer ensemble à l'église, on leur interdit de mettre des petits signes. Je fais ça parce qu'à l'époque, on mettait souvent des petits rubans pour montrer qu'on appartenait au même groupe, etc. Et donc, on essaie de leur interdire le plus possible de choses. Bon, de la même façon, on va trouver des sociétés de lecture qui vont se substituer, et, bon, et ce sera le cas dans de nombreux régimes autoritaires, aux associations professionnelles. Mais vous avez raison, hein, ça va être une interdiction de très long terme, d'où l'importance peut-être de cette loi Le Chapelier. Alors qu'au moment où ils la votent, les constituants, ils sont ambigus. En fait, certains pensent qu'ils la votent surtout contre les corps privilégiés, pour éviter que d'anciens groupes privilégiés se retrouvent. Et en fait, bon, progressivement, ça va devenir effectivement avant tout une loi qui interdit aux travailleurs de se regrouper. Vous savez que ce sera de longue durée, puisque la révolution de 48, dont on a très peu parlé cette année, après avoir été une révolution sociale en février, va donner une république conservatrice. Et cette république conservatrice, en 1849, elle va à nouveau interdire toutes les associations professionnelles. Et bon, vous vous souvenez peut-être de ça, c'est l'Empire libéral qui, il me semble que c'est en 1864, c'est ça, hein, aussi les associations autorisent, hein, le fait de se regrouper. Le droit de grève, c'est plus tard, c'est la Troisième République, hein, et avec beaucoup de limites, en fait. Il me semble que c'est 1884, je dirais, non ? Mais en tout cas, ça n'est pas un droit, hein. La grève devient un droit qu'en 1946. Et ça, c'est vraiment, alors là, une rupture. Je ne sais pas si nous en mesurons bien la portée, et si nous en tirerons toutes les conséquences, puisque c'est dans la Constitution. C'est un droit, pour le coup, c'est un droit constitutionnel.
Alors, le retour.
En fait, c'était par rapport à, dans la présentation, je me rappelle que j'avais lu un petit peu de Grotius, et c'était Traité de la nature et des gens, où il parlait du droit de nécessité. Et c'était en 1600 et quelques, au XVIIe siècle. Du coup, ça me paraissait faire rebond un petit peu avec ce que vous disiez. Sauf que comme c'était antérieur, il me semble que même si la société n'était pas égalitaire, qu'il y avait une certaine conception de la subsistance qui ne date pas spécifiquement de cette époque, que je ne peux pas dater, mais juste si vous aviez des éléments dessus.
Bonsoir. Je voudrais savoir si l'enseignement, l'étude des mouvements, enfin de la Révolution française, permet de généraliser et d'expliquer les mouvements révolutionnaires qui y ont suivi, ou d'anticiper les mouvements révolutionnaires futurs.
Vous dites l'enseignement ?
Non, l'étude, pardon. L'étude. Et vous avez parlé au début du fait que le peuple contestait que la révolution soit terminée, mais que la bourgeoisie était satisfaite. Et je me demandais si, pour qu'une révolution prenne, il faut qu'il y ait un rapport numérique de personnes qui soient pas satisfaites, qui soient, que leur nombre soit supérieur à celles qui sont satisfaites de la société dans laquelle ils vivent. Enfin, est-ce que ça se passe aussi simplement que ça ?
On est revenu à des perspectives très générales, tu vois, auxquelles tu voulais.
Sur Grotius, je suis tout à fait d'accord. C'est toujours le même problème. Hein. C'est des constructions qui se font sur le long terme. À la fois, il y a du même et il y a du différent, parce que, comme vous dites, bon, ce que Lucien Febvre appelait les outils, l'outillage mental, les concepts, etc., et les conditions sociales sont pas les mêmes. Mais vous avez raison, on trouve dans beaucoup de textes et dans beaucoup de sociétés cette question du droit à l'existence. Et ce que certains auteurs ont appelé l'économie morale de la foule, cette idée que le peuple développe une forme de savoir économique que l'on trouve à travers notamment, je reviens au XVIIIe siècle, hein, parce que c'est ce que je connais le mieux, à travers les taxations, ce qu'on appelle les taxations au XVIIIe siècle, c'est-à-dire le fait de fixer un prix qui apparaît comme un prix juste. C'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de moments sociaux et dans beaucoup de contextes différents. Donc vous posez une vraie question, il faut faire très attention effectivement à ne pas être dans une pensée généalogique, et c'est une construction de contexte dans du temps court, et à chaque fois évidemment on peut refaire ces contextualisations, mais oui, bon, je suis tout à fait d'accord. Il faut être aussi très très prudent donc là-dessus, hein, et pas être dans une lecture de la diachronie, disons, construire une espèce de logique progressiste. L'autre question sur l'étude des révolutions, est-ce que ça permet de... On peut le rêver, mais c'est peut-être que ça... Je ne suis pas convaincue. Non, je crois qu'on pense avec, bon, sans doute, nos grilles d'analyse du présent, le passé, ça... Ça nous aide à penser, oui. Ça nous aide à penser, à prévoir... C'est moins sûr. Ça déforme. Certains de mes collègues se moquent toujours de moi parce que j'imagine toujours que la révolution est pour demain. Évidemment, oui, mais moi je suis totalement déformée, c'est vrai. C'est normal, je travaille là-dedans et du coup, évidemment, je vois toujours des amalgames. Et quand je vous disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes, etc., évidemment, quand on me dit les jeunes font des études trop longues, je pense à Sébastien Mercier qui dit pourquoi est-ce qu'ils apprennent du latin alors qu'ils sont, lui-même, il était fils de boutique. Il dit, mais il ne faut pas prendre le latin en fils de boutiquier, après ils ne veulent plus être derrière le comptoir. C'est effectivement ce qu'il avait fait. Et combien dans la Révolution il y a d'enfants de traiteurs un peu cossus qui ne veulent surtout plus être traiteurs et qui font des études et qui pensent le monde et qui écrivent des pamphlets, etc. Donc parfois, quand je vois l'émulsion intellectuelle dans laquelle nous vivons, ça me rend assez optimiste. Mais je suis quand même assez raisonnable pour savoir qu'il y a de l'analogie là-dedans qui n'est pas de la démonstration scientifique. Hein. C'est... Bien sûr, mais c'est plutôt nous-mêmes qui sommes déformés et peut-être qu'au contraire, ça fait fort mal penser le présent. Et que je finirai mes jours avant d'avoir vu une révolution. Mais moi, ça me fait vivre en pensant qu'elle est toujours pour demain. Mais ça n'est pas scientifique, évidemment. Ça, c'est autre chose. Non, mes collègues qui sont de grands scientifiques et penseurs de la société voient peut-être autrement leur capacité prédictive. Et puis, la fin de votre question, c'était quoi ? Ça, c'est passionnant, effectivement. C'est toujours une énigme. Qu'est-ce qui fait qu'une révolution se produit et qu'est-ce qui fait, oui, qu'un mouvement prend de l'ampleur? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette coalescence entre quand même des intérêts qui sont toujours très divergents, etc. Ça, c'est une vraie question. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait... certainement beaucoup de gens dans une société ou des gens alors je sais pas, la révolution bolchévique est d'un autre type, hein. Pour la révolution française, oui, on peut penser que c'est qu'il y avait de très nombreux groupes sociaux qui n'étaient pas satisfaits de l'ordre tel qu'il existait. Alors après, si on est un peu matérialiste, on va penser que c'est des transformations de long terme de la société qui faisaient que ce que l'autre appelait les superstructures n'était plus adapté. De fait, on voit qu'il y a beaucoup de groupes sociaux qui sont très insatisfaits. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'effet de convergence. C'est-à-dire quand même comment est-ce que notamment cette bourgeoisie urbaine, arrive, y compris dès les états généraux et dès les cahiers de doléances, à faire un peu quand même de la construction politique, hein, c'est-à-dire qu'ils vont dans les campagnes, ils font passer des mots d'ordre pour que l'on arrive à des cahiers de doléances dans lesquels il y a des mots d'ordre communs qui vont émerger, et notamment l'abolition des privilèges fiscaux. Donc il y a une espèce, il y a une hiérarchisation des mots d'ordre avec des modèles de cahiers de doléances qui ont circulé, etc. Donc on est bien là aussi dans la construction politique dès la campagne pour les états généraux. Et je pense que dans le cadre de la Révolution française, oui, il y a des formes de mécontentement très, très diverses, mais très larges, et qui convergent sur l'idée que ça va pas continuer comme ça. Et la campagne des états généraux est vraiment extraordinaire, hein, comme moment d'enthousiasme collectif, d'acculturation politique. Enfin, c'est formidable. Mais ça, c'est la monarchie qui l'a voulu, qui a vraiment complètement raté ces états généraux, en pensant qu'elle allait court-circuiter les idées de la bourgeoisie en donnant la parole aux paysans. Que tout le monde prend toujours trop pour des imbéciles, et en se disant les paysans vont suivre la noblesse, vont suivre le clergé, et du coup ça va réduire ces activistes urbains. Ben, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça, et ça a au contraire décloisonné ville-campagne, ce qui est un élément majeur de la Révolution française. Je pense que c'est l'élément le plus important, et c'est ce qui explique le succès. Hein, c'est vraiment la seule révolution qui est à la fois une révolution urbaine et une révolution rurale, et dans laquelle le peuple des campagnes ne se retourne pas massivement contre le peuple urbain et contre les élites urbaines. Toutes les révolutions libérales, et pour notre très grand malheur, notamment la révolution libérale allemande, a buté, enfin, on peut en parler au pluriel, elles ont buté là-dessus, parce que les villes en Allemagne étaient, enfin, dans les États allemands, étaient encore privilégiés et étaient des États dans l'État. Alors, ce n'est plus le cas à l'époque de la Révolution française, et la monarchie a accéléré ce processus avec cette campagne des États généraux qui est extraordinaire. Hein. Cette idée de faire rassembler dans les paroisses pour discuter des cahiers de doléances, bon, c'est très banal, du coup on n'en mesure plus vraiment l'impact. Et la Révolution française, c'est vraiment la grande révolution de l'égalité territoriale, et c'est peut-être ça qui est en train de s'achever en ce moment, c'est la grande promotion du monde rural. La Révolution française, et d'ailleurs certains s'en plaignent dès les années 90 en disant les paysans se sont trop enrichis, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, parce qu'ils se croient tout permis, ils gardent leurs marchandises. Alors évidemment, c'est des visions caricaturales. C'est pas pour ça que les paysans, mais c'est vrai qu'ils se sont certains enrichis, ils ont acheté des biens nationaux, bon, les plus puissants, et d'autres, ils ont bénéficié des mêmes mesures que les urbains, où ils ont été handicapés par les mêmes mesures, parce que c'est une paysannerie consommatrice. Alors là-dessus, moi je suis vraiment labroussienne, c'est pas du tout moderne, mais je pense vraiment que la question de l'investissement par le monde rural de la Révolution française, c'est quelque chose de majeur. Ça explique le succès. Il n'y aurait pas eu de succès, parce qu'on ne fait pas une armée de 500 000 hommes s'il n'y a pas des volontaires paysans. Et à la limite, les urbains, ils ont presque peur de cet enthousiasme paysan. À Poitiers, quand on lève, on appelle à la levée en masse en juillet 92, il y a trop de monde. Les gens, ils laissent leur ferme, ils viennent à Poitiers. Et les gens de Poitiers, les administrations les renvoient en leur disant « Non, non, allez cultiver la terre, c'est là que vous serez utile. On n'a pas de fusil d'abord à leur donner et on ne veut pas être encombré, bon, de ces milliers de paysans. » Donc il y a vraiment une mobilisation paysanne, et ça revient à votre question du nombre aussi. Et je crois que cette mobilisation paysanne, elle est quand même essentiellement liée au fait qu'il y a toute une petite paysannerie qui est, comme l'a dit Ernest Labrousse, une paysannerie qui est consommatrice de blé, donc qui a comme les urbains, intérêt à ce que le prix des marchandises ne monte pas, qui a intérêt à la taxation, qui d'ailleurs ne s'en prive pas. Bon, c'est lié aux transformations du 18e et notamment, vous le savez, à la grande alcoolisation du 18e siècle, au fait qu'on a planté de la vigne partout. Là, on ne peut pas planter de la vigne, on plante du houblon. Et il y a donc toute une nouvelle paysannerie et qui ne produit pas son grain, qui vend du vin ou qui vend de la bière et qui achète sur le marché du grain. Bon, ça, c'est une explication un petit peu rapide, économique, mais je pense réellement qu'elle a une grande importance. En tout cas, la promotion du monde rural et la promotion des communes, hein, ce qui est peut-être en train de nous échapper aujourd'hui, comme base de la vie politique et comme espace de politisation fondamentale. Il n'y a pas de développement de la politisation dans le cadre de la Révolution française sans cette promotion de la commune comme base de tout le fonctionnement social et politique, avec les élections des municipalités, les élections des curés aussi, etc. Et bon, c'est ce sur quoi nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Donc avant même le suffrage universel, hein, il y a vraiment une politisation par ces structures. Est-ce qu'on s'est tout dit? Vous n'avez pas de questions à me poser, vous, grands jeunes gens, là? Ah oui, allez, dévoue-toi. Une dernière.
Bon, merci Anne d'abord pour de nous avoir plongé là dans ce moment de la Révolution française. Ça fait beaucoup de bien. On remobilise les souvenirs qu'on peut mobiliser, quoi. Bon,
merci.
Ça remonte parfois très loin. Alors donc c'est pas une question de spécialiste bien sûr, mais ce que je trouve passionnant dans ce que tu nous as raconté, enfin, ce qui moi m'interroge beaucoup, c'est un peu une question d'historien ou d'historienne, mais c'est aussi une question de sociologue, au moins depuis Max Weber, c'est la question de la légitimité de l'autorité ou du pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait on est dans une période où les choses sont effectivement remplies d'incertitudes, c'est très fragile, on voit bien, il y a toujours un roi dont on se demande s'il va être destitué ou pas, si il peut être révoqué ou non. Bon, certains disent oui, certains disent non. On a cette constituante, bon, mais qui, on voit, n'est pas toujours en phase avec les aspirations du peuple, alors avec des guillemets, parce que là aussi, il faudrait savoir un peu plus. Mais on voit que pour faire intervenir la garde nationale, tu nous l'as dit, pour monter le pavillon rouge, il faut faire appel à la municipalité. Alors là aussi, c'est un autre pouvoir qui a une certaine légitimité. On ne peut pas faire... Voilà. Bref, alors, et puis, bon, sans compter les autres puissances qui pourraient intervenir, donc tout est très fragile, très incertain, et voilà, et moi je me demande, alors comment par exemple cette constituante a tenu, tu nous as dit, voilà, entre 89 et ce que tu nous as raconté, il y a un long laps de temps qui s'écoule, ils travaillent à cette nouvelle constitution, et en même temps ils sont là, mais bon, c'est toujours la révolution, comment ça tient, quoi, du point de vue de la légitimité de l'autorité ou du pouvoir, c'est moi, enfin, en t'écoutant, je me disais, mais on voit bien que les choses peuvent basculer, parfois peut-être pour pas grand-chose, et comment est-ce que cette assemblée, est-ce qu'il y a, enfin, voilà, peut-être des stratégies de relégitimation à certains moments, il y a des conflits de légitimité de toute façon entre différentes sources de pouvoir, c'est clair. Et est-ce qu'il y a, voilà, c'est la question du travail de cette légitimité politique à dire la loi, à dire ce qui est interdit, ce qui est permis, etc., à exercer le pouvoir. Voilà, enfin, c'est pas une question très claire, mais je suis désolé. Mais si tu pouvais nous en dire un peu plus là-dessus, voilà, je serais ravi.
Non, je crois que c'est le propre d'un moment révolutionnaire. La révolution n'est pas close le temps que la légitimité du pouvoir n'est pas totalement assurée, on va dire, par l'acceptation, soumission ou acceptation volontaire du plus grand nombre. C'est ce qui fait que cette révolution dure. Là, j'avais prévu de vous lire un texte de Barnave, donc un de ses députés qui veut clore la crise. Et bon, vous le connaissez, hein, ce texte, il est souvent cité. Il dit Je place ici la véritable question, allons-nous terminer la révolution, allons-nous la recommencer? Donc c'est le 15 juillet. Un pas de plus serait un acte funeste et coupable. Un pas de plus serait la destruction de la royauté. Un pas de plus dans la ligne de l'égalité, la destruction de la propriété. Donc il dit qu'il ne faut plus bouger. Bon, et épisodiquement, c'est ça dans les révolutions. Mais c'est toujours la difficulté. Une fois, on le voit bien chez Locke, quand même la grande référence philosophique de tous ces hommes, même s'ils n'ont pas directement lu Locke, ils ont lu à travers d'autres philosophes du XVIIIe siècle. D'ailleurs, et Locke, je trouve que c'est pathétique parce qu'on le sent très clairement chez lui. Il est un conseiller de la révolution anglaise, bon, que les dominants ont qualifié de glorieusement. Évidemment, tout son texte, c'est de dire il y a légitimité à mettre en cause un pouvoir tyrannique. Mais une fois que le pouvoir n'est plus tyrannique, il ne faut surtout pas remettre en cause le pouvoir établi. Donc, maintenant, nous avons une monarchie limitée, bon, je parle de l'Angleterre de la fin du XVIIe, ça n'est plus un pouvoir despotique, donc ceux qui remettent en cause ce pouvoir sont illégitimes. Donc il faut réprimer les révoltes populaires, ceux qui veulent s'emparer des terres, ceux qui ne veulent pas que les grands propriétaires fassent leurs grandes propriétés, etc. La révolution américaine, c'est très clair aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez lu leur grand texte, Proclamation d'indépendance. Ils disent un peuple qui est sous un pouvoir illégitime, cet affreux roi George, il doit se révolter. Mais en même temps, ils sont dans la même pensée que Locke, qui dit qu'il ne faut pas se révolter quand même pour des raisons trop légères. C'est-à-dire, on rejoint l'expression qu'a reprise Sophie Vanish, le peuple doit être patient. Alors elle dit, le peuple, à un moment, justement, il n'est plus patient. Alors que pour Locke, le peuple doit être très patient. Et c'est une idée que partagent aussi un certain nombre de ses constituants. C'est-à-dire qu'on vivait sous une tyrannie. Ce despotisme, on va dire, il était universellement condamné. Il faut une autre société. On met en place quelque chose d'autre qui n'est pas un pouvoir tyrannique, qui est basé sur la loi qui est faite par des gens qui représentent la nation. Sur cette question de représentation, peut y avoir des débats sur... Mais on n'est pas dans un pouvoir despotique, donc il n'y a pas d'illégitimité du pouvoir, et ceux qui sont illégitimes, c'est ceux qui remettent en cause ce pouvoir. Et ça devient de plus en plus tendu, quand la foule, ben, comme c'est le cas là, en juillet, empêche les constituants de rentrer dans l'Assemblée, et vous savez que ça va donner lieu à des journées au printemps 92, dans lesquelles non, 93, dire le peuple organisé dans les formes de l'époque, impose à l'Assemblée de s'épurer, donc de renvoyer une partie des députés, parce que ces députés, selon ces manifestants, ne sont pas respectueux du nouveau pouvoir politique, et notamment du pouvoir politique insurrectionnel de la nouvelle municipalité parisienne. Donc, on a bien là un conflit de légitimité. Évidemment, une partie de ceux qui siègent vont dire « voilà la violence révolutionnaire » et notamment, vous connaissez peut-être l'histoire dite des montagnards et des girondins, dite parce que là aussi c'est des constructions de groupes en partie a posteriori, mais qui va avoir tellement de succès dans l'histoire romantique, etc., et qui jusqu'à aujourd'hui, bon, vous avez vu le Danton de Vajda, enfin, alors on n'est pas sur cette opposition-là, mais sur une autre, mais construit notamment les Girondins, de Lamartine, comme les héros malheureux, victimes de la violence de la foule révolutionnaire. Et d'où la position aussi de Lamartine sur l'intervention populaire lors de la Révolution de 48. Il y a cette peur du peuple, de l'intervention du peuple comme génératrice de violence et d'un ordre violent et insupportable, évidemment, elle est ancrée pour tous les gens du XIXe siècle dans l'expérience de la Révolution française. Donc, il y a des rejeux qui sont propulsifs, je veux dire, favorables aux révolutions, et j'ai cité notamment la Déclaration des droits de 93 ou la Constitution démocratique de 93, mais massivement, l'image épouvantable qui est restée de la Révolution et notamment de la République à travers la critique par les Thermidoriens, de Robespierre, des Montagnards, des 95, des 1795, bon, elle alimente tout le XIXe siècle et largement jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes des fans de Hugo Pratt, mais j'ai eu entre les mains le dernier volume, je ne sais pas pourquoi, quelle idée a eu l'auteur d'aller mettre un personnage qui est véritablement monstrueux, qui est chez les Inuits, et dans une baignoire, donc je ne sais pas si c'est une allusion à Marat ou autre, qui a un livre, il a écrit Robespierre dessus, et des têtes de mort tout autour de lui. Donc vous voyez que l'imaginaire négatif sur, alors notamment le gouvernement révolutionnaire de l'an 2, est aujourd'hui très au-delà, enfin est répandu très au-delà des fractions les plus conservatrices de la société. Donc là, on atteint d'autres questions, mais là, j'ai fait une petite enquête sur la Révolution française dans la littérature pour la jeunesse. C'est effrayant. Tout ça parce qu'un jour, ma fille est venue me voir en me disant « Comment est-ce que tu peux travailler sur un être aussi sanguinaire que Robespierre ?» Et bêtement, elle avait lu un livre d'histoire pour enfants de chez Bayard. Je crois que c'est les seules éditions pour enfants qui font un peu d'histoire aujourd'hui. Bon, ce ne sont pas des monarchistes, je pense, repentis, mais l'image de Robespierre et de la République de l'an 2 est épouvantable. Or, c'est de la construction qui n'a rien à voir avec l'histoire de la période. Et en dépit de tout ce que nous faisons, parce qu'on peut dire que moi-même, je ne produis pas énormément, mais on est très nombreux à travailler sur la Révolution française et avec des collègues qui produisent beaucoup, qui animent beaucoup de débats, qui écrivent dans la presse. Enfin, il y a une activité de recherche très importante, mais qui ne fait pas bouger les représentations collectives. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai et qui sont véritablement alarmantes. Sur Robespierre, moi, je vous conseille quand même de le lire. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant du point de vue de politique. Bon, c'est quelqu'un qui écrit très bien, qui réfléchit beaucoup. Et bon, ses œuvres complètes, heureusement, sont publiées. Mais ça fait partie, par exemple, de ce qui n'est pas numérisé par la Bibliothèque nationale. Et ça aussi, c'est des choix idéologiques. Vous avez des tas d'autres textes qui sont maintenant en ligne, mais pas les œuvres complètes de Robespierre. Et la représentation dominante reste véritablement acclamante. Alors c'est ce qu'on essaie aussi de déconstruire, y compris en décloisonnant, et notamment en voyant que ce qui va être le cœur du gouvernement révolutionnaire de l'an 2, donc les fameuses idées de la surveillance, j'aurais pu travailler ça, on la retrouve dans tous les contextes révolutionnaires. Tous les contextes révolutionnaires produisent l'idée qu'il faut de la surveillance, parce qu'il y a des ennemis de la révolution. Et ça, dès 89. Bon, je te laisse annoncer la suite.
Eh bien, en tout cas, nous aurons déjà commencé à déconstruire les représentations qui font obstacle peut-être à une vision plus,
différente en tout cas de la société, de son évolution. Demain, on poursuivra cette réflexion autour de 1968 et 1917, hein, comme je disais tout à l'heure, avec Bernard Pudal, Boris Gobi et Éric Brun qui nous a déjà rejoint ce soir. Donc ce sera de 16h à 18h30 à l'Hôtel Fumé Amphi Pierre Bourdieu. Et la journée se terminera demain par une projection au cinéma Le Dietrich à 20h30 du film de Peter Watkins, La Commune. Voilà. Donc bonne soirée à tous. Rentrez bien chez vous. Méditez tout ça jusqu'à demain.
Merci beaucoup.